France Info.
Bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. Comme tous les matins, on est ensemble jusqu'à 9h. Avec vous, bonjour Jean-Michel Apathy.
Bonjour Fabienne.
Bonjour à vous, Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est président du groupe Modem à l'Assemblée.
Bonjour Marc Fesneau.
Bonjour.
Vous êtes donc président du groupe Modem. Le Modem, c'est le deuxième parti de la majorité après le mouvement En Marche. Vous avez été élu hier président de ce groupe à l'unanimité par les 42 députés présents. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, sinon...
Ce serait pas drôle.
Où serait le plaisir? On attendait à votre place, c'est Marielle de Sarnez, l'ancien ministre des Affaires européennes. Et quand elle est sortie de la salle de réunion, donc hier midi, qui vous a élu, elle a dit quelque chose... en fait, elle n'a pas dit grand-chose. Elle a expliqué que ce n'était pas elle, que c'était vous, mais elle n'en a pas dit beaucoup plus. On l'écoute.
Le groupe a élu Marc Fesneau, président du groupe, à l'unanimité. Le groupe a pris une deuxième décision, c'est qu'il m'a désigné à l'unanimité également comme future présidente de commission.
Pourquoi Marielle de Sarnez n'a-t-elle pas été élue présidente de groupe?
D'abord parce qu'elle n'a pas été candidate et qu'elle l'a exprimé clairement en début de réunion en disant « je ne souhaite pas être candidate ». Et par contre, elle a indiqué qu'elle trouvait bien que je sois candidat pour cette élection. Et donc les choses se sont faites assez naturellement. Et par ailleurs, une fois que j'ai été élu, j'ai trouvé logique que nous puissions proposer l'idée que Marielle de Sarnez soit présidente d'une commission, on verra laquelle dans les jours qui viennent.
La semaine dernière, elle disait « je vais quitter le gouvernement parce que ce qui me passionne, c'est d'être présidente de groupe du Modem ».
Moi, j'ai pas entendu ça des propos que j'ai eus et des échanges que j'ai eus avec elle. Non, mais vraiment.
Elle a deux discours.
Je sais pas s'il y a deux discours. Je crois que les choses aussi, on a des responsabilités à se répartir. Je connais bien les membres du groupe, les députés qui sont constituants de ce groupe. Et je pense que les choses se sont faites assez naturellement et de façon très simple, hein, et pas compliquée du tout, franchement.
C'est la crainte que la justice avance sur les dossiers des emplois contestés dans leur fonctionnement du Modem. Il n'y a que ça qui peut expliquer, en fait.
Non, c'est aussi la répartition des responsabilités. Marielle a des tas de connaissances sur un certain nombre de sujets. Elle peut apporter, comme présidente de commission, elle pouvait apporter aussi comme présidente de groupe. Je ne crois pas que ce soit cette crainte. D'ailleurs, on fera lit de toutes ces affaires-là, j'espère, rapidement, pour que les choses soient plus sereines.
Gilles Marchand. Et en attendant de faire lit de ces affaires, comme vous dites, le fait qu'elle soit présidente de commission, de surcroît on parle de la commission des affaires étrangères, donc avec un rôle de représentation de la France à l'étranger, ça ne vous pose pas le moindre problème?
Mais non, parce que moi je sais l'honnêteté, la probité de ceux qui...
Vous le savez peut-être, mais...
Oui, mais vous n'en savez pas plus que moi, si je peux me permettre, et donc on va laisser faire la justice. Je pense qu'à un moment, il y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, je dis juste, sans être désagréable, que on procède à chaque fois par des gens qui font des déclarations anonymes. Je n'aime pas ce système de délation. Et donc,
Corinne Lepage, c'était pas anonyme,
c'était sibyllin.
C'était un livre. Livre pas sibyllin du tout, qui s'appelle Les mains propres, qui est sorti en janvier 2015.
Oui, mais qui a été. Les choses ont été clarifiées sur le point qu'elle évoquait, d'ailleurs, si je peux me permettre. Et je trouve que vous fassiez votre travail, c'est tout à fait normal. Que nous essayons de dire des choses, c'est normal. Et à un moment, il faut laisser faire la justice. Parce qu'on jette des noms en pâture. Je vous le dis très franchement, on jette des noms en pâture de gens qui découvrent tout d'un coup leur nom apparaître dans la presse parce que d'autres les ont dénoncés. Je trouve que c'est un système qui est gênant, je le dis très, très simplement. Et donc à un moment, il faut que les choses, non pas s'apaisent, parce qu'il faudra que la justice fasse lumière sur tout ça et nous rende notre bon droit, parce que je pense que nous sommes de notre bon droit. Et après, on
j'entends,
verra.
Mais pourquoi, si c'est ce que vous dites, pourquoi François Bayrou, Marielle de Sarnez ont-ils quitté le gouvernement?
Parce qu'ils ont le sentiment, très naturellement, et on peut le comprendre, soyons objectifs, on était dans un moment très éruptif autour de cette question-là et de ce questionnement-là. Quand vous êtes membre du gouvernement et que les seules questions qu'on vous pose, et je répète, ce n'est pas un reproche, elles tournent autour de ça, comment pouvez-vous exercer vos responsabilités? Ce d'autant que, en particulier François Bayrou, était sur un poste que c'était celui de ministre de la Justice. Vous étiez dans une situation où il ne pouvait pas s'exprimer, sauf à donner le sentiment que...
Et puis il utilisait trop le téléphone.
Peut-être, mais à un moment, il faut aussi, expliquer les réflexes humains.
C'est une erreur qu'il ait fait ça?
Non, c'est pas une erreur. Je connais François, je sais, vous le connaissez aussi. Vous savez comment il est. Je pense que il a essayé d'exprimer des choses. Simplement, il y a un moment, vous pouvez pas le faire. Donc, manifestement, c'était compliqué.
Donc, est-ce que ça veut dire que, puisque c'est Marielle de Sarnez qui vous a demandé d'être candidat, c'est comme ça que ça s'est passé? C'est ce que j'ai compris.
On a réparti les choses entre nous. On a pensé que les choses étaient bien ainsi.
Est-ce que ça veut dire que si la justice passait, que finalement il ne se passait rien, elle reprend votre place?
Non.
Là où vous l'avez laissée?
Non. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Une fois qu'on est dans des responsabilités les uns les autres, ça s'est fait franchement de façon très naturelle. Je connais très bien les parlementaires, on va se mettre au travail.
Donc elle espère être présidente de la commission des affaires étrangères. Ça veut dire qu'il y a un accord avec En Marche?
Forcément, on verra quelle commission, mais forcément, ça part d'un accord avec En Marche.
Qu'est-ce que vous avez comme accord? Que Marielle de Sarnez soit présidente d'une commission.
Voilà, le principe est acté que nous disposions, si je peux dire, d'une commission. C'est la répartition normale dans ce genre d'affaires entre deux groupes de la majorité présidentielle. Je vais rencontrer Richard Ferrand dans les prochaines heures, on va parler de tout ça.
Le MoDem n'aura qu'une présidence de commission.
Oui. Il y en a une pour l'opposition, il y en a une pour
le MoDem. Et le reste, c'est En Marche.
Oui, c'est la logique des choses.
Richard Ferrand, vous venez de citer son nom. Qu'est-ce que vous avez pensé de son élection à main levée, samedi dernier, à la tête de son groupe?
C'est le main levée qui nous...
Oui, j'ai bien compris que la question, c'était pas élection, mais main levée.
Ouais, on se dit, ça fait très nouveau monde. On faisait ça en 1920, en 1920.
Oui, brejnevien, oui. Très nouveau monde, brejnevien.
Donc c'est le retour c'est du nouveau monde.
De l'est, côté de l'est, oui. On peut toujours... j'ai entendu Christophe Castaner, on peut toujours se poser des questions là-dessus. Mais après tout, c'était un secret pour personne. Richard Ferrand a tenu l'émergence de ce mouvement. La plupart des parlementaires qui étaient là, procèdent quand même de la démarche qu'a menée Richard Ferrand et du fait qu'ils ont travaillé...
Non, mais c'est pas le problème de Richard Ferrand, c'est
vous aussi. Vous aussi au MoDem, et vous avez voté pour
le MoDem. À bulletin secret.
Voilà. Vous dites que c'était un secret pour personne. Justement, ce qu'il y a d'intéressant dans le vote, c'est un truc qui s'appelle le secret.
Secret, j'ai bien compris. Voilà.
Le MoDem a voté à bulletin secret, mais En Marche a voté par acclamation.
Oui, alors, pas de différence à ce point.
On nous dit qu'il y a, deux abstentions dans le groupe En Marche.
Oui.
Mais on n'a pas trouvé les abstentionnistes.
Cherchez, vous les trouverez peut-être.
Bon. Et alors, on a aussi noté qu'au total, 7 présidents de groupe ont été élus à l'Assemblée nationale, que ce soit bulletin secret ou par acclamation, et ces 7 présidents sont 7 hommes. Et ça aussi, c'est très nouveau.
Voilà. Mais le renouvellement n'est pas une chose... Non, mais vous avez raison, mais le renouvellement, au-delà de la plaisanterie que vous faisiez, le renouvellement n'est pas une chose facile. Et c'est vrai que les situations, j'entendais Alexis Corbière, je crois, ce matin, qui disait Jean-Luc Mélenchon et à qui on faisait le même grief. En disant, cette présidence, cet homme. Et il disait, oui, mais enfin, Jean-Luc Mélenchon est le leader de notre groupe. Mmh. Donc, vous voyez, c'est quand même. C'est une difficulté, on ne va pas dire le contraire.
Ça veut dire qu'il faut pousser pour une présidente de l'Assemblée nationale?
Moi, je trouve que l'idée que ce soit une présidente me convient. Et il y a des tas de femmes de talent qui ont été élues députées, qui étaient déjà pour certaines en place. Je trouve que c'est plutôt séduisant. Il ne faut pas le faire comme un gadget. Mais en tout cas, il faut le faire parce que ce symbole-là serait important pour présider l'Assemblée.
Voilà, comme 7 hommes ont déjà été élus présidents de groupe, il faut qu'une femme vienne
contrebalancer. Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas que ce soit pour ce motif-là que ce soit
mais
fait.
Mais ici, le chef de bande, c'est moi. Et je dis qu'il est 8h40 et qu'on s'interrompt pour une minute. Voici David Doba.
Yes. Les maires de plusieurs dizaines de grandes villes, notamment Paris, mais aussi Washington ou encore Rio, exhortent désormais les dirigeants du G20 à tenir leurs engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. Leur lettre est publiée ce matin dans différents journaux du monde entier, une action motivée par le retrait de Donald Trump des accords de Paris. 55 filières estampillées vertes désormais, pourtant sous tension. Résultat, un élève de terminale sur 5 n'a toujours pas d'affectation à l'université pour la rentrée. Le ministère de l'Enseignement se veut rassurant. La situation devrait s'arranger dans les toutes prochaines heures. Pour des raisons encore inexpliquées, un bateau a coulé cette nuit en Colombie. 170 personnes étaient à son bord. 6 sont mortes, 31 autres sont portées disparues. Et puis Mario Balotelli a pris goût à la Ligue 1. Il prolonge du coup son contrat avec l'OGC Nice d'un an avec 15 buts inscrits. Il a permis aux Aiglons de terminer à la 3e place du classement.
L'émission politique de France Info continue jusqu'à 9h. Notre invité, c'est Marc Fesneau, le président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Et la question, c'est vous, Gilles Bornstein.
Il y avait une troisième ministre MoDem, Sylvie Goulard, qui a quitté le gouvernement. Et on a appris hier en lisant le JDD qu'elle aurait été rétribuée 10 000 euros par mois, c'est quand même beaucoup d'argent, par l'Institut Berggruen, qui est un think tank proche des États-Unis, disons. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça vous a choqué?
Je l'ai découvert dans le JDD.
Donc surpris, oui.
Surpris, oui. Choqué. On va regarder. Il faut que Sylvie Goulard... Il faut laisser aussi la possibilité à Sylvie Goulard de s'expliquer là-dessus. Je n'ai pas vu qu'elle ait eu des explications assez longues. On verra.
Elle en a un peu dans le JDD.
Il y en a un petit peu, mais c'est assez...
C'est succinct.
Donc, il faut laisser Sylvie Goulard expliquer tout ça. Mais ça pose toute la question, au global, des conflits d'intérêts. C'est ça que ça pose comme question.
Et donc ça vous choque?
Non, ce n'est pas que ça me choque, parce qu'il faudrait établir des faits. Il faudrait qu'on puisse dire exactement quels étaient les liens, combien de temps ça a duré, et ce qu'elle faisait précisément.
De 2013 à 2016.
J'entends bien ce que vous me dites, mais il faudrait peut-être donner la parole 2017. Aussi à Sylvie Goulard. Et elle va l'apprendre sur le sujet.
Bien sûr, ce qui est un peu
Moi, je ne connais pas assez le sujet pour aller me prononcer là-dessus, parce qu'il ne faut pas s'aventurer sur ces terrains-là, c'est quand même des gens qui sont derrière. Des charges qui peuvent être lourdes d'un point de vue médiatique. Donc il faut faire attention. Je ne connais pas la parole de Sylvie Goulard. Je préfère l'attendre avant de me prononcer là-dessus.
Ce qui est un peu surprenant, c'est que notamment lors de la constitution du premier gouvernement, il y a eu un retard de 24 heures avant les nominations pour que, nous avait-on dit, soit analysée vraiment la situation de chacune des personnalités. Et puis voilà, on continue à découvrir que peut-être tout n'était pas su, parce qu'après tout, il n'y a peut-être aucun problème, peut-être qu'il y en a un, mais... Là, on découvre ça avec un petit peu de surprise.
C'est vrai qu'il y a des choses qui sont...
Et vous l'avez découvert avec nous.
Oui, il y a des choses qui relèvent de la haute autorité et qui permettent d'avoir des éléments. On n'a pas forcément tous les éléments. Il y a quand même eu une avancée qui a été faite de ce point de vue-là sous le quinquennat précédent. L'idée qu'on puisse déclarer un certain nombre de choses et que la haute autorité puisse être saisie pour dire quelles sont les situations des uns ou des autres. Le système n'est peut-être pas parfait, puis peut-être... Il n'y a pas de sujet en tant que tel. Donc, quel est le périmètre qu'on doit explorer pour dire il y a un sujet ou il n'y a pas un sujet? Ça aussi. Je pense que dans le projet de loi de moralisation que nous aurons sous les yeux, il faudra regarder ça aussi.
C'est-à-dire interdire
interdire ou encadrer et dire ce qui relève de quelque chose qui peut poser question dans des fonctions gouvernementales ou celles qui n'en posent pas. Mais aujourd'hui, il faudra poser ça sur la table.
Pas
une question simplement de répréhensibilité ou pas.
On découvre autre chose aussi depuis hier. Nous savions que le Premier ministre Édouard Philippe ferait son discours de politique générale le 4 juillet. Et on découvre qu'il est possible, même si l'Élysée ne l'a pas confirmé pour l'instant, que la veille, le 3 juillet, le président de la République réunisse à Versailles en congrès les députés et les sénateurs pour tenir devant eux un discours. À quoi ça sert que le président s'exprime le 3 et le Premier ministre le 4? Est-ce que vous y voyez une volonté institutionnelle de marginaliser un peu le rôle du Premier ministre ou est-ce que ça vous paraît normal?
Moi, ça me paraît normal. On peut pas découvrir...
C'est du jamais vu, hein?
C'est du jamais vu, mais on parlait tout à l'heure des choses, en plaisantant un peu, qui étaient déjà du vu et du revu. Là, on est sur quelque chose de nouveau et finalement, ça non plus, ça ne va pas. On a un président de la République qui assume ses responsabilités. Un président de la République qui prend à la fois de la distance, mais avec lequel qui doit être en dialogue avec sa majorité. C'est la première assemblée qui est constituée entre les sénateurs et les députés, que le président de la République vienne en congrès, comme lui permet maintenant la Constitution, expliquer un grand cap, ce que sont les attendus.
Ça s'appelle un discours de politique générale.
C'est la date qui...
Oui, j'ai bien compris que ça arrive avant, mais le président de la République, dans l'ordre hiérarchique des choses, c'est celui qui nomme le Premier ministre et qui décide un certain nombre de choses.
Quel baffe pour le Premier ministre.
C'est même plus...
Non, c'est pas une baffe pour le Premier ministre.
Bah, il sert à rien.
Ben non, ça sert pas à rien. On verra. Vous verrez si telle
c'est
était la question.
Lapidaire,
chef. Oui, c'est un peu lapidaire.
Comme chef.
Mais
c'est
vrai. Non mais
vous êtes un chef.
Non, ça sert pas à rien. Le président de la République, j'imagine que s'il vient devant le Congrès, c'est pas pour faire un discours de politique générale. Le discours de politique générale, c'est un certain nombre de mesures. Vous avez assisté à beaucoup plus de discours de politique générale.
C'est une
intendance,
quoi.
C'est un discours.
C'est une intendance.
Ah, c'est sympa. Vous voulez de me traiter de vieux journaliste?
Non, pas du tout.
De manière élégante. Je vous remercie pour la manière.
Non, c'est
une plaisanterie. Vous inquiétez pas.
On en a vu les uns et les autres. C'est un discours dans lequel on égrène un certain nombre de mesures concrètes. Et c'est un discours de politique générale, mais en même temps précise. Que le président de la République passe un moment à l'Assemblée nationale, formation congrès, pour donner le grand cap. Il n'a pas eu de grande réexpression depuis qu'elle a été élue présidente de la République.
Le sujet, c'est pas ça.
Mais du coup, ça
oui,
veut dire,
je comprends l'inversion du calendrier.
En termes de com, ça flingue, pour parler trivialement.
On est en train de revenir aussi sur ce qu'est un président de la République qui prend pleinement l'exercice de sa responsabilité.
Ça, c'est sûr.
Vous êtes d'accord. Et donc, c'est ça qu'on est en train de constater. Tout le monde est en train de le constater.
C'est savoureux que ce soit vous qui le disiez, parce que vous appartenez, je le rappelle, au MoDem.
Oui. Et c'est bien de le rappeler.
Oui, et alors l'un des grands classiques de François Bayrou, ça a été de dénoncer, mais c'était à propos de Nicolas Sarkozy, l'hyper-présidence.
Mais là, ce n'est pas l'hyper-présidence, ça c'est la présidence. Puis-je me permettre de répondre? Ce que François Bayrou reprochait, c'était un président de la République qui faisait justement le Premier ministre. On a un président de la République qui fait président de la République.
Vous failliez.
Qui fait président de la République. Vous reconnaîtrez quand même qu'il ne se mêle pas. On va laisser Édouard
Philippe
faire le
travail. Ça ressemble à un discours à la nation tel que les Américains le font.
Oui.
C'est à ça que ça ressemble. Donc ça veut dire que ça veut dire que le Premier ministre est le mécano, en fait.
Le Premier ministre, d'un point de vue institutionnel, il a le rôle de gouverner et de mener l'action du gouvernement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Simplement, on est en train de retrouver ce qui était la base de l'organisation avec un président de la République qui préside, un Premier ministre qui gouverne avec sa majorité et ses ministres. Moi, je ne trouve rien de choquant à ce que le président de la République puisse donner le cap et que le Premier ministre, le lendemain, puisse le décliner, parce que c'est comme ça que ça procède.
On discute de quelque chose de virtuel, parce que ça circule depuis le 3 juillet. Oui, vous n'avez pas d'informations.
Non, pour l'instant, on n'est pas sur des...
Parce que vous en auriez, vous nous les donneriez.
On verra ça dans la matinée, peut-être.
Ah, parce que
Non, non, parce que je vais retourner à l'Assemblée nationale, j'aurai peut-être des informations. D'accord. Ne sautez pas sur ma phrase en pensant que j'ai une information précise. Je le saurai peut-être dans la matinée ou dans l'après-midi.
Mercredi, en Conseil des ministres, sera présenté le projet de loi d'habilitation qui vise à réformer le Code du travail. On en connaît les grandes mesures, alors peut-être un contrat de projet qui va être étendu, la simplification aussi des organismes représentatifs au sein des entreprises, des négociations plus grandes dans les entreprises. Le groupe que vous présidez pourra présenter, aura envie de présenter des amendements à ce projet ou tel qu'il est, il vous paraît équilibré, acceptable?
D'abord, on va regarder le texte. En tout cas, sur le principe, ça pose la question de la place du groupe et de la façon dont on va fonctionner. Dès qu'on peut améliorer, amender, on n'est pas là simplement pour voter les textes qui nous sont présentés. C'est le rôle d'un groupe majoritaire aussi. Le groupe de l'opposition est de s'opposer un peu mécaniquement, mais le groupe majoritaire n'est pas de voter mécaniquement. Simplement, c'est d'essayer d'améliorer et d'amender le texte. Donc, on verra mercredi le texte qui nous sera proposé. Et après, on arbitrera les amendements qu'on peut proposer parce qu'il nous semblerait qu'il y ait des améliorations. Il va y avoir ensuite un certain nombre de rencontres.
Dans quel domaine il vous semblerait qu'il y ait des améliorations ?
Il faut regarder sur le contrat de travail, il faut regarder sur les organisations comme vous venez de l'évoquer.
Le contrat de projet, par exemple.
On va regarder. Franchement, je ne peux pas vous répondre à ce stade. D'accord. C'est vraiment très tôt sur un texte que nous n'avons pas précisément parce que c'est dans les détails que se nichent parfois des questions.
Est-ce que vous avez des lignes rouges de ce point de vue-là que vous ne voulez pas que le gouvernement franchisse ?
Moi, il me semble que les attendus de ce qu'ont été ces projets de loi d'habilitation à gouverner par ordonnance, à légiférer par ordonnance, sont connus. Moi, il n'y a rien dans ce texte et dans ces principes-là qui nous gênent. Mais après, je répète, c'est dans les détails que peuvent se nicher des choses qui peuvent poser question. Il me semble que l'idée d'avoir quand même un socle général de contrat et après la possibilité de discuter par branche ou par entreprise, ça me paraît être de bon sens. Après, je répète, il faut regarder dans le détail. Il me semble que l'idée d'introduire la notion de flexi-sécurité, parce que c'est aussi ça qu'il y a derrière, est une notion.
Le référendum d'entreprise à l'initiative patronale, donc en gros, grande liberté laissée au patron, ça vous choque ou pas ?
Non. Pourquoi ça serait choquant ? Je ne vois pas ce qu'il y aurait de choquant.
Les syndicats disent que c'est choquant, parce que le chef d'entreprise a suffisamment de pouvoir dans son entreprise.
Oui, mais j'aimerais qu'on distingue, enfin, on connaît les uns et les autres des entreprises, on distingue les entreprises et les PME. Moi, je vois la relation des chefs d'entreprise avec leurs salariés, ce n'est pas celle que me décrivent certains syndicats. Il me semble que la relation de dialogue est plus forte que ce qu'on décrit. Ça introduit peut-être l'idée qu'on peut dialoguer et pas simplement être dans le rapport de force et la confrontation, même s'il y a du rapport de force entre le patron et ses salariés. Mais quand même, qu'on puisse dialoguer ne me choque pas.
Il est 8h50 sur France Info. On se retrouve dans une minute, tout pile. David Dobat est là.
Et le PR de Flamanville sous la loupe des experts de l'autorité de sûreté nucléaire. Au terme d'une réunion de 2 jours, ils doivent déterminer désormais à quelles conditions EDF peut ou non mettre en service sa centrale. Les attentions se portent sur d'éventuels défauts de la cuve et même plus particulièrement du couvercle de cette cuve. S'il n'est plus question de le changer, il devra en revanche être contrôlé plus régulièrement. Il est à eux et ils le gardent. Jean-Christophe Cambadélis dénonce des manœuvres spéculatives. Le siège de la Fédération du Parti Socialiste des Bouches-du-Rhône n'est pas à vendre. Les locaux sont majoritairement détenus par le PS national. Aucune décision n'a donc été prise pour le moment sur le sujet. Les 1700 salariés de Tati et de 3 autres enseignes du groupe Eram fixés sur leur sort aujourd'hui, le tribunal de commerce de Bobigny doit désigner un éventuel repreneur. L'Espagne en proie aux flammes, 1500 personnes évacuées en raison de violents feux de forêt depuis samedi. Des feux qui se trouvent dans la région de Huelva, dans le sud du pays. La région est en alerte en raison de la canicule. Et puis, nouvelle défaite en finale de l'Euro pour les basketteuses françaises. Elles terminent avec une médaille d'argent autour du cou, battue justement par les Espagnols, 71-55.
France Info. Gilles Fineau est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Président du groupe Modem à l'Assemblée, question Gilles Bornstein.
Vendredi dernier, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb était à Calais et voici ce qu'il a déclaré à propos des migrants et de leur retour à Calais, justement.
Nous ne voulons pas qu'il y ait de point de fixation qui ferait qu'à long terme, on retrouverait 7000 personnes qui soient installées ici, ce qui est totalement insupportable.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'il y a un problème à Calais et que le ministre de l'Intérieur puisse l'évoquer. Ce qui vous choque, c'est de dire que c'est insupportable.
C'est-à-dire que c'est le côté très restrictif du discours.
On sait qu'on a une situation à Calais qui est insupportable. La vérité, et les Calaisiens, je crois qu'ils ont fait preuve de grande patience devant ce qu'était l'incapacité à l'État à gérer ce flux de migrants qui voulaient finalement venir à Calais, non pas pour venir à Calais, mais pour aller en Angleterre. L'idée qu'on puisse dire que c'est pas acceptable. Alors après, moi, je pense qu'il y a une question de fond, c'est comment on accueille ces gens-là. Ouais. Dans quelles conditions on les accueille? Il y a des réseaux associatifs qui se mobilisent, on a besoin des services de l'État. Il faut le faire avec la plus grande dignité qui soit, parce que c'est des gens qui fuient la mort, et qui sont venus là, qui auraient préféré rester dans leur pays. Donc la question, c'est la répartition de ces migrants sur le territoire. La France n'a pas accepté énormément de migrants sur son territoire par rapport aux Allemands, mais la politique allemande était une politique d'une autre nature. Et donc la question du traitement humain de ces gens-là, mais simplement de ne pas peut-être les concentrer à Calais, enfin, ça crée des tensions sur cette ville qui est placée géographiquement là où elle peut, si je peux dire, quand en face de l'Angleterre.
Mais il faut savoir accueillir les migrants quand ils sont là.
Mais une fois qu'ils sont là, il y a le devoir. Enfin, on ne peut pas être la France et l'histoire de la France et en même temps avoir un discours qui soit différent de celui-là, mais au-delà du discours, d'avoir des actes. C'est-à-dire de trouver des solutions. Il faut aussi qu'on ait un dialogue avec les Anglais. Parce qu'on ne peut pas être l'endroit où viennent s'agréger dans des conditions. Je vous rappelle que la semaine dernière, il y a un chauffeur routier qui est décédé parce qu'ils avaient essayé de lui faire arrêter son camion. Enfin, on est quand même dans des situations de tension humaine qui sont extrêmement graves.
Il faut abroger les accords du Touquet ?
Non, mais en tout cas, il faudrait les renégocier. Parce que là, on est dans... Moi, il me semble... En tout cas, il y a une discussion qui doit s'ouvrir avec les Anglais. Parce que là, on est... à quoi ça aboutit, pardon, les accords du Touquet ? À la situation de Calais. C'est parce que nous sommes là... à accueillir ces gens qui ne rêvent que d'une chose, qui est d'aller en Angleterre. Et donc, qu'est-ce qu'on doit dire aux Anglais, quand même? Ils peuvent peut-être prendre aussi la part de la charge et de la difficulté que nous rencontrons. C'est la même chose avec les Italiens à la frontière sud, si je peux dire. On ne peut pas simplement dire aux Italiens, écoutez, vous êtes passés géographiquement
ça
là.
Ça fait
vous
longtemps qu'on aurait pu parler avec les Anglais, c'est ça?
C'est ça qui est incroyable.
On a parlé, les Anglais ont pris une partie de la part financière, mais à un moment, la frontière est à Calais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide que la frontière, finalement, est plus loin? Donc, on laisse partir les migrants qui veulent partir.
Oui, mais après, on va avoir des gens qui vont traverser la Manche et qui ont survécu à la Méditerranée, qui n'auraient pas survécu à la Manche. On ne peut pas prendre cette responsabilité. Moralement, c'est insupportable. Mais en tout cas, on peut peut-être dialoguer avec les Anglais en disant qu'il y a peut-être la charge financière, mais il y a la charge humaine. Ces gens-là veulent aller en Grande-Bretagne, qui traitent aussi les dossiers avec nous et qui ne nous laissent pas seuls face à ça, et en particulier les gens de Calais.
Guy Birenbaum.
Autre sujet que vous allez devoir traiter, c'est la loi antiterroriste. Que pensez-vous du fait que des mesures de l'état d'urgence vont être désormais inscrites dans le droit? On sait que beaucoup d'associations et beaucoup de politiques sont totalement opposées à cette démarche.
De l'exceptionnel, l'ordinaire.
Oui, l'exceptionnel devient ordinaire. Alors, vous avez une question quand même, c'est que l'état d'urgence, il est là depuis 18 mois.
Oui.
Et que l'exceptionnel est devenu ordinaire.
2015.
Et que nous avons un vrai sujet quand même, on se le dit entre nous, c'est que si nous avions levé l'état d'urgence comme l'a fait en Grande-Bretagne, enfin c'était le niveau d'alerte en Grande-Bretagne, et qu'il y avait eu un attentat, on aurait dit... Donc les mesures de... Alors, la question c'est, est-ce que les mesures de l'état d'urgence sont celles qui permettent de lutter contre le terrorisme? L'état d'urgence, c'est un moment d'urgence qui permet de procéder à un certain nombre de choses, en particulier en termes de perquisition. Est-ce que des mesures de l'état d'urgence peuvent rentrer dans le droit commun? Parce que finalement, elles permettent en continu de le faire. C'est comme ça que se pose la question. Mais c'est la vraie difficulté entre la marche qu'on doit donner en termes de liberté et la question de la sécurité. Et la pression...
C'est un sujet très grave.
C'est un sujet très grave et très lourd, parce que c'est un sujet très lourd de responsabilité vis-à-vis des citoyens sur leur propre liberté, sur la volonté par ailleurs qu'ils ont de nous dire assurer notre sécurité. Donc c'est un équilibre.
Vous avez voté le texte ou pas?
Il faut vraiment qu'on garde dans le détail.
Regarder le texte. Oui, vous avez raison, oui.
On ne veut pas être des godillots, vaut mieux qu'on relise les textes, qu'on essaie de les amender avant de les voter.
Vous n'avez pas envie d'être des godillots?
Non, je n'ai pas le tempérament ni l'envie d'être un godillot. Peut-être parce que je débute, mais on verra.
En Marche n'a pas besoin de vous?
Non, mais ça n'empêche pas qu'on puisse exercer
notre majorité à eux seuls.
Oui, mais je pense que la volonté des députés, y compris d'En Marche, c'est de faire leur travail de parlementaire. On est 400 et quelques nouveaux. Ce n'est pas une vertu d'être nouveau en soi. En tout cas, des gens qui ont envie de faire des choses avec la langue qui est celui d'une... Pas que d'une génération, c'est que d'une nouvelle équipe de députés. Donc c'est avec ce tempérament-là qu'il faut aborder les choses.
On voyait à l'image tout à l'heure aux côtés de Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Jacqueline Gourault, avec laquelle vous avez beaucoup travaillé dans votre département, donc que vous connaissez bien. Alors elle est ministre, mais on ne sait pas de quoi. Elle est ministre auprès du ministre.
Alors moi je trouve intéressant, alors là aussi ça change.
Ah oui, ça change, oui.
Oui, mais c'est comme ça. On avait demandé du changement, on l'a.
Oui.
En être surprise, c'est que l'idée qu'on ne réduise pas le périmètre d'un ministre délégué ou d'un secrétaire d'État, parce que les secrétaires d'État sont dans la même configuration, ça permet d'éviter que chacun construise son précaré et que le ministre délégué ou le secrétaire d'État, il soit délégué auprès de son ministre et qu'il puisse regarder un certain nombre de choses et de tâches.
Mais quoi ?
Jacqueline Gourault, elle est ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Donc elle va s'occuper des questions de sécurité.
Elle va pas s'occuper de budget.
Elle va s'occuper de collectivités locales, parce que c'est le sujet qu'elle connaît le mieux. Elle va s'occuper des affaires de pompiers, probablement. Donc, les choses seront précisées dans les attendus.
Et pourquoi celle-là et pas les autres ?
Je voudrais rappeler le bon mot de Renaud Muselier qui a été, il y a déjà une dizaine d'années
oui,
de cela, secrétaire d'État auprès de Dominique de Villepin.
Il fait tout et moi je fais le reste.
Lui-même ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin fait tout, moi je fais le reste. Et en fait, la phrase était ironique, mais elle avait cette vertu, c'est que si le ministre se met en tête de faire des choses, enfin le ministre ou le secrétaire d'État, il entre assez vite en conflit avec le vrai ministre qui veut rien lui laisser faire. Donc
c'est mieux d'avoir une vraie forme de délégation.
Moi je pense pas, mais moi je pense l'inverse.
Mais non, parce que
une vraie forme de délégation, mais on ne la connaît pas.
Mais vous allez l'avoir sans doute dans la semaine, mais une vraie forme de délégation. Mais sinon, vous êtes dans des périmètres restreints. Après tout, il y a un ministre de l'Intérieur, il y a une ministre déléguée. Franchement, ils travaillent.
C'est ça qui est toujours un peu compliqué, parce qu'il va y avoir, on va nous expliquer, mais pourquoi on ne nous l'a pas dit tout de suite alors? Je ne comprends pas très bien pourquoi
mais
ça, il ne faut pas le dire tout de suite.
Je dois dire qu'il me semble qu'Emmanuel Macron avait dit depuis le début qu'il ne souhaitait pas, y compris quand s'est formé le premier gouvernement. Il l'avait dit, hein.
Il avait dit quoi?
Il avait dit qu'il ne souhaitait pas que les ministres délégués ou les secrétaires d'État ont restreint leur périmètre en disant ils sont attachés à leur ministre et ils doivent travailler ensemble. Et donc,
en même temps.
Ben oui, c'est quand
même. Non, c'était une blague.
On peut pas, oui, j'ai bien compris.
Le 9, le 9.
Et en même temps, oui.
Le 9 nous désoriente. Alors on me demande de préciser que Jacqueline Gourault est élue dans le Loir-et-Cher.
Loir-et-Cher, absolument.
Donc vous êtes vous-même aujourd'hui le député. Merci Marc Fesneau, président du groupe Modem, donc d'avoir accepté l'invitation de France Info.
Et à demain, merci à tous.